Bonjour et bienvenue sur Fel FM. Aujourd'hui, nous sommes 5 élèves de la classe presse et nous allons interviewer Monsieur Guénard. Alors, nous allons nous présenter. Il y a Antoine, Andrea, Romain, Kéliane et moi-même, Maxime. Et Monsieur Guénard, bonjour. Donc, nous allons parler des métiers du bâtiment. Donc, bonjour Monsieur Guénard. Quel est votre métier? Que faites-vous dans la vie?
Eh bien, merci à vous de me recevoir. Bien sûr, je me présente donc Jean-Claude Guélard, retraité du bâtiment. J'ai quitté l'école à 14 ans avec un certificat d'études. Et je suis donc parti en apprentissage 3 ans chez un petit artisan. Petit artisan qui se trouvait en Gironde, parce que moi je suis natif de la Gironde. J'ai donc fait l'apprentissage de 14 ans à 17 ans chez un artisan peintre. Cet artisan avait un ouvrier, plus moi, en tant qu'apprenti. Au bout de 3 ans, j'ai passé mon CAP et je suis donc parti en entreprise à Bordeaux. Je suis donc rentré dans une entreprise à l'époque de 120-130 personnes. Bien sûr, c'est pas parce que j'avais mon CAP que je connaissais mon métier. J'ai donc appris sur les chantiers avec des compagnons. Et j'ai appris donc pendant 3 ans. Au bout de ces 3 ans, je suis parti donc en entreprise et j'ai travaillé en tant que simple ouvrier. Alors, comme je vous le disais, on apprend toujours. Hein. C'est pas au bout de 3 ans d'apprentissage, on apprend énormément. J'ai donc appris mon métier, finir d'apprendre mon métier avec des compagnons qui étaient vraiment de bons ouvriers. J'ai travaillé là pendant 2 ans. Et à 19 ans, je suis parti faire mon service militaire, parce qu'à cette époque-là, le service militaire était obligatoire. Je suis donc parti à l'armée pendant 16 mois, et je suis revenu dans cette entreprise bordelaise. Et là, quand je suis revenu, j'ai travaillé quelques mois, en tant que simple ouvrier toujours, et un jour, j'ai été convoqué par le chef d'entreprise, le patron. En me disant, voilà, Jean-Claude, je sais un peu comment tu travailles, je vais te donner un ouvrier, un compagnon, un petit compagnon, pour que tu apprennes le métier. Donc, je travaillais avec lui et je finissais d'apprendre son métier. J'ai donc fait ça pendant 2 ans. Et pendant 2 ans après, je suis donc arrivé en Indre-et-Loire. Par le mariage, j'ai connu une fille en vacances, on s'est marié à Tours par la suite, et je suis donc resté à Tours, je suis arrivé à Tours en 1970. D'accord. Je suis rentré dans une entreprise pareille, peut-être pas vous, mais vos parents connaissaient à l'époque, Daoud Alebouë, peinture, et là, pareil, j'ai été sur les chantiers, je travaillais, continuer à apprendre le métier. Hein. On apprend toujours dans ce domaine-là. Et là, pareil, il m'a convoqué, ce patron-là, il m'a dit, bon, ben voilà, on voit ce que tu sais à peu près faire. On va te donner 2-3 compagnons. Donc, si vous voulez, je vous raconte tout ça parce que de l'apprentissage à 14 ans, je n'ai connu qu'un seul métier. Jusqu'à 60 ans, c'était peintre. J'ai donc commencé mon métier, comme je le disais tout à l'heure, simple compagnon, et j'ai gravi tous les échelons, sans rien demander à mon patron. C'est lui qui me faisait gravir les échelons. Et mes 22 dernières années, je les ai finies en tant que conducteur de travaux. Pourquoi je vous raconte tout ça depuis 2-3 minutes ? C'est pour dire que dans le bâtiment, quand l'on veut,
on peut.
On peut. Voilà, avant d'aller plus loin, si vous avez des questions.
Oui, moi j'en ai une. Est-ce que vous avez fait les compagnons du devoir?
Non.
Oui, j'ai une question sur donc, le métier de peintre du bâtiment. Enfin, en quoi ça consiste?
Alors, le métier de peinture, finalement, c'est deux métiers différents. Vous avez le peintre intérieur et le peintre en extérieur, ce qu'on appelle le ravaleur. C'est totalement différent. Pourquoi c'est différent? Parce que déjà, en extérieur, des pavillons, ça tout le monde peut le faire, mais des chantiers à plusieurs étages, il y a des gens qui ont le vertige. Des grands bâtiments comme ça, il faut faire des montages d'échafaudage et tout. Donc ce sont deux métiers différents. Le peintre intérieur consiste à faire quoi ? Par exemple, dans cette pièce-là, peinture, un petit escabeau, lessivage. Alors par contre, après, il y avait des gens qui ne savaient pas tapisser. Alors que ça fait toujours partie du métier. D'accord. Tout ce qui était préparation, peinture, ils savaient. Et moi, en tant que conducteur de travaux, après, j'avais des ouvriers qui venaient poser le papier derrière ces gens-là.
Et donc vous étiez plus peintre intérieur ou extérieur ?
Les deux.
Les deux ?
Les deux.
Ah oui, les deux. D'accord. Les deux.
J'ai fait que de la peinture intérieure quand j'étais dans le sud-ouest. Mm-hmm. Et quand je suis arrivé à Tours, j'ai appris. Et c'est pour ça que mes 22 dernières années, j'étais conducteur de travaux en ravalement. Mais quand mes collègues, par exemple, partaient en vacances, je reprenais leur chantier et vice-versa. Moi, quand je partais, c'était plus compliqué pour eux parce que, c'était des contremaîtres, des conducteurs de travaux intérieurs. Extérieurs, ils passaient pour surveiller les gars, mais...
Oui, c'était...
Voilà, que moi, je faisais les deux.
D'accord.
Ça consiste en quoi, conducteur de travaux ?
Alors, beaucoup de choses. C'est-à-dire que la première, on a déjà la confiance de son chef d'entreprise. Vous ne verrez jamais un conducteur de travaux chez le petit artisan. Si l'artisan, il a 1, 2, 3 ouvriers, il n'a pas besoin de conducteur de travaux. Le conducteur de travaux, c'est lui. Une entreprise de 50 personnes, de plus de 50 personnes, là, le chef d'entreprise prend un conducteur de travaux. Et le travail du conducteur de travaux, c'est... Déjà, de faire les commandes pour ces chantiers, faire les rendez-vous avec les architectes, faire les préparations de paye. On faisait une fiche par semaine que l'on donnait au secrétariat. Ça, c'est le rôle du conducteur de travaux. Donc, les rendez-vous de chantier, voir passer sur les chantiers tant que possible tous les jours. Je m'adressais quand même de temps en temps aux ouvriers. Quand on passe sur un chantier, on ne s'adresse pas qu'aux responsables de chantier qu'on a. On a énormément de travail. Moi, je me rappelle, dans l'entreprise où j'étais, j'arrivais à 6 h du matin au bureau et j'en repartais le soir 18h30. Mais en plus, moi, en tant que responsable du ravalement, j'avais des chantiers à l'extérieur. C'est-à-dire que l'entreprise étant à Tours, j'avais des chantiers au Mans, à Orléans, à Blois. Donc je faisais énormément de voitures.
C'est un rôle très important en fait.
Ah oui.
Et est-ce que le travail est dur ?
Le travail est dur, par exemple, dans l'entreprise, le travail de ravaleur est beaucoup plus dur que son collègue qui est peint uniquement intérieur.
Ça se comprend.
Là, comme je vous disais tout à l'heure, il travaille avec un escabeau pour faire une pièce comme ça. À l'extérieur, c'est des échafaudages à monter parce que on formait le personnel pour monter nos échafaudages. On n'avait pas d'entreprise qui nous montait l'échafaudage. L'entreprise, on avait notre échafaudage et le personnel qui montait l'échafaudage. Forcément, ils faisaient quand même de la formation. Parce que faire de l'échafaudage, on était énormément contrôlé. Quand l'échafaudage était terminé, je faisais appel à la PAV. La PAV, c'est un organisme qui vient contrôler les échafaudages. S'il y a quoi que ce soit, une barque est même montée, tout ça, il nous le signale, il faut faire le travail. Il faut que le personnel qui travaille à l'extérieur soit vraiment en sécurité. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'être ravaleur que peintre intérieur. Le métier par lui-même est plus facile, parce que c'est que du roulage de façade ou du nettoyage de façade. Par rapport à un peintre intérieur qui lui pose du papier. Il faut être quand même plus méticuleux. L'hiver, les gens sont quand même sur les échafaudages.
Vous travaillez pendant toutes les saisons ?
Oui, à part quand il gèle, parce qu'on a en dessous de 5 degrés, on ne peut plus faire de peinture à l'extérieur. On a quand même des garanties, ce qu'on appelle des décennales sur les façades, 10 ans. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Même les organismes, si on travaillait à, mettons, moins 7, et puis qu'un responsable d'HLM passe, nous dirait « Non, là, monsieur, vous arrêtez, là, vous ne travaillez pas à cette température-là. » Parce que les produits sont en façade, c'est qu'acrylique. Donc, acrylique égale, ça gèle, c'est de l'eau. Hein.
Le travail est plus ou moins difficile selon le secteur où l'on travaille dans le bâtiment, en fait.
Voilà. Tout à fait.
Vous n'êtes pas là en tant que peintre, mais en tant que bénévole. Pourriez-vous nous parler de cette association dont vous faites
Alors,
partie ?
C'est cette association Pro-BTP, voulant dire prévoyance de retraite ouvrière du bâtiment. C'est-à-dire, quand on est dans le bâtiment, on cotise pour notre retraite. Moi, en ce moment, je suis retraité du bâtiment. tous les mois, je touche une retraite. C'est par les cotisations en tant que salarié que je suis payé maintenant. Et ces bro BTP, depuis quelques années, ont établi groupe parrainage. Donc les collèges qui veulent bien me recevoir, par un courrier que je leur ai envoyé, et quand ils me répondent, je fais des interventions dans les collèges de l'Indre-et-Loire. Prenons l'exemple de votre collège ici, commune. J'ai déjà fait 4 voire 5 interventions pour parler des métiers du bâtiment, avec projection des métiers. Le contenu, il est le même qu'en ce moment. Je donne mon parcours. Et après, il y a plus questions-réponses. Mais pour en revenir à ProBTP, voilà. Alors, il y a le parrainage pour les métiers du bâtiment. Il y a un autre groupe qui s'occupe des loisirs. Il y a un autre groupe qui s'occupe du surendettement. Il y a un autre groupe qui s'occupe de l'accompagnement pour les personnes âgées.
Et c'est une association qui compte beaucoup de membres ?
Ah, sur le plan national, ProBTP, c'est tout le bâtiment. Hein. Parrainage, sur le plan national, nous sommes 550-560. Et nous faisons ça bénévolement.
Est-ce que le bâtiment est un secteur d'avenir ?
Tout à fait. Le bâtiment est tout premier employeur du secteur privé de France. Il occupe une place importante dans l'économie française, avec 520 000 entreprises, pour un chiffre d'affaires en 2013 de 193 milliards d'euros hors taxes. Malgré la crise qui touche ce secteur depuis 2008, le nombre de salariés est actuellement plus élevé qu'en 2005, soit plus de 1 200 000, dont 78% dans le bâtiment. En 2014, le bâtiment a effectué plus de 230 000 recrutements, dont 86% dans le bâtiment et formé plus de 170 000 apprentis. C'est vrai qu'on en parle des fois en mal du bâtiment, dans la presse, à la télé, dans les familles, mais le bâtiment recrute, il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à trouver de personnel. Et ça, c'est dommage. Pourquoi les jeunes ne viennent pas dans le bâtiment ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a quelques années, on en parlait en mal par rapport à l'industrie. Moi, je me rappelle, c'est une anecdote, ça. Quand je suis arrivé à Tours en 1970, sur les chantiers, j'entendais toujours mes collègues qui parlaient de la SKF. Et la SKF, attention, hein, je n'en dis pas du mal, c'est pour situer un peu ce qui se disait dans ces années-là. Ils disaient, moi, je ne veux plus faire de bâtiment, je ne veux plus faire donc de peinture, je vais m'en aller à la SKF. Et ça, j'avais entendu ça plusieurs fois. Et puis un jour, j'ai dit quand même, SKF, qu'est-ce que c'est cette entreprise ? Et on m'a expliqué que la SKF, c'était, vous savez, maintenant, c'est à Saint-Cyr, c'est une société qui fait des roulements à billes pour les voitures. Pourquoi ils s'en allaient à la SKF ? Parce qu'à l'époque, la SKF était beaucoup mieux rémunérée que des entreprises du bâtiment. Ça, c'est indéniable. Et c'est pour ça que dans ces années-là, tout le monde partait dans ces entreprises-là. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Les avantages qu'avait l'industrie dans ces années-là, le bâtiment les a également. Le salaire a rattrapé l'industrie. Dans le bâtiment, maintenant, vous avez ce qu'on appelle les chèques vacances, les chèques restaurants, ce système qui n'existait pas dans ces années-là. Donc, en plus, dans les familles, on en parlait en mal. Le bâtiment, c'était dur, il n'y avait rien qui intéressait la jeunesse de cette époque-là. Maintenant, c'est terminé, tout ça. Le bâtiment recrute et certaines personnes ont toujours cet aspect-là, oh non, je ne veux pas aller dans le bâtiment parce que c'est dur, c'est pas très bien payé, non, c'est faux.
Est-ce que c'est dangereux et si ça l'est, comment vous faites pour protéger les ouvriers, etc.
Quel que soit le métier, chaque métier est dangereux. Les métiers du bâtiment, effectivement, maçons, couvreurs, charpentiers, c'est... La personne qui ne fait pas attention sur un toit, par exemple, peut très bien trébucher, tomber. Ça, c'est courant. Alors, vous verrez maintenant, là, on rentre dans un secteur chantier sécurisé. On parle de sécurité. Vous verrez maintenant, vous avez déjà dû le voir, un couvreur autour du bâtiment est recouvert de filets. Les échafaudages sont sécurisés avec des rampes. Autrefois, les gens montaient sur un toit, il n'y avait pas de filet, il n'y avait pas de... Il n'y avait aucune sécurité. Un coiffeur, il peut mettre un coup de ciseau à votre oreille.
Et est-ce que c'est bien payé, du coup ?
Oui, les salaires du bâtiment arrivent au niveau de l'industrie. Mais alors là, c'est pareil. Le salaire, je ne veux pas trop en parler parce que ça dépend de l'individu. Moi, je dis toujours que, aussi bien dans le bâtiment qu'en usine, hein, c'est la personne qui fait son salaire.
Oui.
Et puis, tous les matins, c'est pas parce que son patron ou son chef de chantier lui dira « Oh ben dis donc, là, t'as réussi le travail impeccable. » Faut pas que le lendemain matin, il parte tout de suite frapper à la porte de son patron en lui disant « Dites donc, on m'a dit que j'ai bien travaillé. Là, tout de suite, je peux avoir de l'augmentation.
Oui, »
Ça,
oui.
faut pas opérer comme ça. Hein. Ça, 9 fois et demi sur 10, vous n'aurez pas gain de cause. C'est par votre travail que vous faites votre salaire. De temps en temps, faut aller voir son patron, mais pas tous les matins. Hein.
C'est sûr que...
Alors là, question salaire, après, c'est au bon vouloir de l'entreprise. Hein, là. Bon, vous ne pourrez pas travailler en dessous du SMIC, c'est-à-dire que c'est le SMIC voulant dire le salaire.
Oui.
Bon, vous avez entendu parler de ça. Mais au-dessus, après, c'est vous qui grimpez, comme l'on dit, par votre travail.
Y a-t-il beaucoup de catégories de métiers dans le bâtiment ?
Énormément. C'est le secteur où il y a le plus d'entreprises d'abord, donc plus de métiers. On peut en citer quelques-uns. Je pense que le métier de cordiste, vous n'avez jamais entendu parler.
Non.
Normal. Alors le métier de cordiste consiste en quoi ? Une entreprise arrive avec un échafaudage, par exemple, il n'a pas l'accès pour mettre son échafaudage. Il faut quand même faire les travaux. Donc, moi je faisais appel à ces entreprises-là, cordistes. C'est-à-dire ce sont des gens qui travaillent avec des cordes, aussi bien pour la peinture que pour du carrelage, que pour de la menuiserie, que pour beaucoup, énormément. Ils ne font pas tous les métiers, hein, mais ils en font pas mal. Donc, ces gens-là s'amarrent sur des cheminées. Ils font leur montage de cordage autour des cheminées. C'est des cordes qui redescendent à la hauteur du bâtiment. Et ils travaillent au bout de cordes. C'est-à-dire qu'ils ont des harnais. Ils mettent, par exemple, un maçon qui fait des raccords de ciment sur une façade. Il a un seau, il a sa truelle, il prépare toute sa marchandise en bas, hein, sur le sol. Il monte au bout de sa corde et il travaille avec des harnais. Donc ça, c'est fatigant. Hein. Moi, je le fais passer, d'ailleurs, ça, quand je fais des interventions dans les collèges, pour voir vraiment en vidéo ce que c'est. Et il n'y a pas tellement d'entreprises de cordage. Hein. Il y en a une, moi, que je faisais travailler, c'est avenue Stalingrad à Saint-Pierre-des-Corps. Les cordistes ont travaillé avec ces gens-là. Mais alors, c'est pareil, n'ayant pas beaucoup d'entreprises de cordistes sur la place de Tours, quand il y avait des travaux, fallait les appeler. C'était pas aujourd'hui pour demain. Hein. Alors là, ça, c'est un... Tout à l'heure, vous parliez de salaire. Ça, c'est quand même des métiers où c'est très, très bien payé. Mais c'est fatigant. Et puis alors là, pareil, il hein, ne faut pas avoir le vertige. Hein. Quand vous avez travaillé 7h30 à 8h au bout d'une corde, le soir, les gens sont bien contents de rentrer chez eux. Et le métier de cordiste, c'est des gens, il y en a beaucoup qui arrivent de la... qu'on fait en montagne des... je ne sais pas comment on appelle ça, effectivement. De l'alpinisme, oui, si vous voulez. Oui. Il y en a beaucoup qui arrivent de là.
J'avais une question, alors il n'y a pas vraiment de rapport avec celle-ci, mais sur l'écologie, à une époque ça polluait beaucoup, je crois, mais je ne sais pas. Quels sont les produits que vous utilisez dans les constructions de bâtiments, sont-ils écologiques ou pas ?
Les produits qu'on utilisait, nous, en peinture, c'était beaucoup de wood spirit. C'était de l'essence, si vous voulez, pour vous. Maintenant, c'est à 80% sont des produits acryliques, donc base d'eau. Pourquoi base d'eau ? Parce que il y a des organismes qui se sont plaints, genre dans les cages d'escalier, des HLM et tout. Quand les gens rentraient le soir chez eux, du travail, l'essence, si vous voulez, ressortait un peu, ça puait. Ça... Beaucoup de gens avaient des maux de tête et tout. Et à force d'en parler, à force d'aller contre tout ça, les usines de peinture se sont mises à l'acrylique. Ça ne sent plus, c'est à base d'eau, Et c'est plus facile déjà pour l'utiliser. Il y a moins de pertes quand on prépare ces peintures-là. Pour les maçons, non, ça n'a pas changé beaucoup parce que le ciment, c'est toujours mélangé avec de l'eau. Mais en peinture, oui, effectivement. Avant, 5 litres de wheat spirit, donc de l'essence, ça durait à peine une journée. Il y avait des pertes énormes. En plus, il y a beaucoup d'ouvriers, ce qui était normal. À la fin de la journée, ils se lavaient les mains à l'essence. Ils ne faisaient pas attention à l'économie. Hein. Et moi, j'ai vu des compagnons qui, ayant de la peinture plein la figure, hein, le front, tout ça, prenaient du wheat spirit et se la passaient sur eux. Je disais, mais il ne faut pas faire ça, mettez des crèmes et tout. Et après, le lendemain, ben, ils avaient des fois des plein crêpes, de petits boutons qui ressortaient. Ça a été interdit après, finalement. On emploie très très peu de peinture à base de solvant. Et puis, pour finir de répondre à votre question, quand on nettoyait en fin de journée, parce qu'en peinture, par exemple, un pot de peinture, on n'appelle pas ça un pot, nous. On appelle ça un camion. Un ouvrier va voir le magasinier en disant « Moi, il me faut deux camions aujourd'hui. » Ce pas des véhicules roulants, hein. ce sont des pots de peinture. Mais nous, on employait énormément de wheat. Que maintenant, un ouvrier nettoie son camion le soir, il va au robinet, tout est à base d'eau. À 80-90%.
Donc ça pollue beaucoup moins qu'avant.
Comme l'on dit, on peut mettre le reste de peinture mélangé avec de l'eau dans un caniveau. Hein, que du wheat, on ne pouvait pas le mettre n'importe où.
Et les femmes dans le métier du bâtiment, oui. Elles sont beaucoup présentes ou pas?
Depuis quelques années, de plus en plus, oui. Où les femmes sont de plus en plus dans les métiers, ce sont carreleurs, peintres bien sûr, couvreurs. Mais quand on parle de couvreurs, comme on dit pas couvreuse, on dit un couvreur. Même une fille, on dit que c'est un couvreur. Mais il y en a beaucoup qui font le métier couvreur parce qu'elles reprennent derrière leur père l'entreprise. Énormément. Et les statistiques sont formelles là-dessus. Mais en peinture, oui, énormément de filles. Oui. Nous, dans l'entreprise, sur le ravalement, aucune fille montait sur les échafaudages. Mais à l'intérieur, mes collègues, tous les ans, il y avait 3 filles en apprentissage. Je ne sais pas si vous avez été au forum il y a 15 jours à Roche-Pinard. Arsonval présentait des carrés de peinture, il y avait 4 filles.
Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui il y ait plus de femmes dans le bâtiment qu'avant?
Alors il y a plusieurs paramètres. La première, c'est les femmes viennent dans le bâtiment parce que les matériaux que l'on emploie maintenant, déjà pour une femme, une fille, sont beaucoup moins lourds. C'est-à-dire, autrefois, un sac de ciment était de 50 kilos. 50 kilos, aussi bien fille que même pour un homme, c'était quand même déjà lourd. Maintenant, les sacs sont divisés par deux. C'est-à-dire, un sac de ciment, c'est 25 kilos. Donc, c'est déjà plus facile, plus maniable. Ce sont des petits sacs, 25 kilos. Tout est comme ça. S'il y avait des femmes dans la maçonnerie, par exemple, les parpaings ne les montent plus à l'échelle. C'est mis sur des palettes et c'est soulevé par un treuil, et c'est livré sur le niveau. Tout est comme ça. On parle de métier plâtrier. Plâtrier, il y a quelques femmes qui font de la plâtrerie. C'est pareil, les sacs de plâtre sont beaucoup moins lourds. La plâtrerie, énormément, se fait par projection. C'est-à-dire, c'est une machine qui projette au bout d'un tuyau du plâtre sur les murs, et il n'y a plus qu'à passer qu'une règle. Autrefois, c'était avec une taloche. Donc voilà pourquoi les métiers du bâtiment sont plus accessibles pour les femmes. Parce que autrefois, c'est vrai que les jeunes filles, c'était la coiffure, la coiffure, la coiffure, la coiffure. Il n'y avait que ça. Mais maintenant, couvreurs, peintres, moquettistes, tout ça, beaucoup de filles.
En général, quel diplôme faut-il?
Alors, quel diplôme faut-il? On peut préparer en alternance, c'est-à-dire par la voie de l'apprentissage, ou en continu, c'est-à-dire sous le statut scolaire. Ça, vous le saviez peut-être quand même. Les diplômes, ben, un CAP. Et puis alors des CAP, il en existe plus de 100 diplômes. Il y a un BP, brevet professionnel, un bac pro, un BT, brevet technique, un BTS, brevet technique supérieur. Bâtiment, on ne demande pas tout ça. Hein. Mais si vous l'avez, c'est très bien. La profession offre de nombreuses opportunités en termes de formation professionnelle continue. C'est-à-dire qu'une personne rentrée dans le bâtiment avec un CAP n'aura pas de mal à évoluer en faisant des formations qualifiantes au sein de son entreprise. Ça veut tout dire, un CAP et oui.
Donc nous pensons avoir fait le tour au sujet du bâtiment. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter?
Oui, il ne faut pas oublier que le bâtiment est l'un des rares secteurs professionnels dans lequel on a la possibilité de devenir chef d'entreprise, en ayant commencé sur les chantiers, c'est évident. Par contre, un ouvrier d'usine a peu de chances de devenir propriétaire de son usine. Il y a des jeunes qui prennent la succession de leurs parents, effectivement, ils sont tout de suite chefs d'entreprise. Il suffit d'aller se faire inscrire à la chambre des métiers, à la chambre du commerce, ça y est. Hein. Le principal, c'est quand on va se faire inscrire, faut pas oublier surtout d'avoir un carnet de commandes bien rempli. C'est pas le tout d'aller se faire inscrire et puis après, demain matin, de chercher les chantiers. Quoi.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc merci à vous d'être venu.
Eh bien, merci à vous de m'avoir écouté. Puis en espérant vous revoir... peut-être sur les chantiers.
En stage.
D'abord en stage, oui, et puis sur les chantiers après. Hein.
Donc encore merci d'être venu et à bientôt sur Phil FM.
Merci.